Alors, ma contribution part en fait de principes consiste à interroger le niveau de compatibilité entre les deux notions principales autour desquelles va s'organiser notre réflexion, à savoir d'une part la notion de lutte armée et puis d'autre part la notion d'émancipation. Alors, il faut évidemment préciser ce questionnement pour que chacune de ces deux notions devienne intelligible et puisse prêter à discussion. La première de ces précisions, elle porte sur la relation entre ces deux notions qui implique une distinction entre l'émancipation par la lutte armée et l'émancipation dans la lutte armée. Alors, par la lutte armée, ça signifie que l'émancipation est le produit de cette lutte, son aboutissement, sa finalité, une espérance, bref, que les armes sont des instruments par lesquels se réalise le projet émancipateur. Et dans la lutte armée, cela signifie que l'émancipation est déjà présente au sein même du processus de lutte armée, le fait de prendre les armes ayant en soi une vertu émancipatrice. Alors, si vous êtes d'accord de considérer avec moi cette dichotomie, vous serez aussi d'accord de considérer qu'il y a quatre combinaisons qui sont possibles. Premièrement, il y a les luttes armées qui sont doublement émancipatrices, l'émancipation se réalisant à la fois dans la lutte armée et par la lutte armée. Deuxièmement, il y a les luttes armées qui sont aucunement émancipatrices, l'émancipation ne se réalisant ni dans la lutte elle-même, ni à son horizon politique. Troisièmement, il y a les luttes armées dont l'horizon politique est émancipateur, mais dont le processus ne l'est pas. Et enfin, quatrièmement, logiquement, il y a les luttes armées qui sont émancipatrices dans leur processus, mais qui ne sont pas dans leur finalité. Ça, c'est des combinaisons théoriques. Et vous avez remarqué que je n'ai pas caractérisé ce qu'était le contraire de l'émancipation, soit au terme d'aliénation, soit au terme de servitude, parce que si je l'avais fait, j'aurais également dû tenir compte de situations intermédiaires, neutres, hein, si vous voulez, qui sont ni émancipatrices ni aliénantes, puis du coup, le nombre de possibilités aurait inutilement augmenté. Autrement dit, dans mon propos, les situations non émancipatrices, elles recouvrent à la fois les situations aliénantes et les situations qui sont neutres. Ça, c'était ma première précision. Ma deuxième précision, elle porte sur la notion d'émancipation qui, à mon sens, ne doit pas être confondue avec la notion de réalisation de soi. On peut parfaitement s'accomplir personnellement dans un cadre qui est contraignant, comme le démontrent toutes les individualités qui s'épanouissent au sein des forces armées ou des forces de police, qui ne sont pas a priori des univers qui offrent un contexte propice à l'affranchissement individuel par rapport à une situation de dépendance. Et donc, par émancipation, pour rester dans le ton de ces deux journées, je conçois un affranchissement d'une contrainte quelconque qui est liée à un rapport de genre. Je ne prends pas trop de risques, mais je précise quand même, en l'occurrence, dans le contexte d'une prise d'armes. Mais là encore, je crois qu'il est nécessaire d'apporter une nouvelle distinction dans la temporalité de la prise d'armes, de la lutte armée, pardon, en distinguant d'une part le moment émancipateur qui relève du temps éruptif, du passage à l'acte, hein, c'est la prise d'armes proprement dite, et d'autre part le temps prolongé de la lutte armée dans laquelle la question de l'émancipation peut se poser en des termes qui sont sensiblement différents, puisque le projet émancipateur peut être soumis non seulement à l'usure du temps, mais aussi à l'usure de la clandestinité. Troisième précision, dans le phénomène de la lutte armée, je prends en considération uniquement les violences armées clandestines, la clandestinité constituant le trait discriminant de mon propos, ce qui signifie que je ne prends pas en considération le féminisme martial, hein, au sens que donne Peter Schalk à cette notion et d'autres auteurs, qui n'entrent donc pas directement dans mon propos, ce qui mérite une brève explication. Les organisations clandestines de lutte armée sont des organisations militarisées dans le sens où elles entrent dans une logique de militarisation à partir du moment où le recours aux armes est défini comme une nécessité politique. Et dans ce sens-là, on peut dire que le processus de militarisation est un aboutissement possible, mais pas nécessaire, d'un processus de radicalisation politique. Cependant, il y a deux différences notables entre une structure organisationnelle clandestine qui subit un processus de militarisation et d'autres structures militarisées, que ce soit des unités régulières dans le cadre d'une armée, des unités semi-régulières dans le cadre d'une milice ou des unités de guérilla dans le cadre d'une guérilla, ce que je vais tout englober dans la notion de structure régimentaire. Toutes ces différentes structures militarisées, je les nommerai structures régimentaires. La première différence notable, mais qui n'est peut-être pas forcément la plus importante, c'est que le registre principal d'action est différent d'une organisation militarisée à l'autre. Le registre principal d'action de l'organisation clandestine, c'est l'attentat, alors que le registre principal d'action des organisations régimentaires, c'est le combat. Et la deuxième différence, c'est que les contraintes organisationnelles ne sont pas identiques dans les deux types de structures militarisées, qui pour être toutes deux contraignantes, le sont différemment. Et à certains égards, on peut considérer que l'action clandestine est paradoxalement plus contraignante pour l'individu que ne l'est la vie régimentaire, dont le principe même est de réduire la responsabilité, l'initiative, l'autonomie et la réflexivité de l'individu. Alors pourquoi ce paradoxe ? Parce que les organisations clandestines évoluent au cœur de l'appareil répressif et que les membres de ces organisations clandestines sont soumis à une pression constante et que leur degré de responsabilité vis-à-vis du fonctionnement et de la survie de l'organisation clandestine est beaucoup plus important que ne l'est le degré de responsabilité de l'individu enrégimenté, qui est également largement déresponsabilisé. Alors, sur la base de ces trois précisions, je formulerai l'hypothèse selon laquelle le potentiel émancipateur de la lutte armée s'érode après le moment éruptif de la prise d'armes, dans la mesure où un processus prolongé de militarisation d'une organisation clandestine renforce les contraintes inhérentes à la poursuite de l'action armée de cette organisation et également à sa survie. Et dans le cadre de cette hypothèse, vous aurez remarqué que j'ai non seulement exclu les structures régimentaires, mais je tends aussi à laisser de côté deux des combinaisons que j'ai précédemment évoquées, puisque ce qui m'intéresse prioritairement ici, pour des raisons sur lesquelles on pourra éventuellement revenir dans le cadre de la discussion, c'est la question de l'émancipation dans la lutte armée. J'aimerais maintenant brièvement illustrer dans la deuxième partie de mon intervention à travers deux exemples qui sont plus illustratifs que démonstratifs. Le premier de ces exemples, c'est le cas des militantes du réseau Bombe de la zone autonome d'Alger, donc au sein de l'armée de libération nationale durant la guerre d'Algérie. Et le deuxième exemple, c'est celui d'une membre de la Rote Armee Fraktion, Irmgard Möller. Alors, le premier exemple, à mon sens, il est intéressant parce que le cas, je cite trois des militantes du réseau Bombe, mais il y en avait d'autres, mais le cas de Zora Drif, Zamia Lakhdari et Jamila Bourid m'intéresse particulièrement parce qu'elles ont été intégrées dans le réseau Bombe de Yassef Saadi en raison de leur faculté à apparaître pour ce qu'elles n'étaient pas, à savoir des femmes européennes. Je vous rappelle rapidement le contexte qui précède la bataille d'Alger. La Casbah était étroitement contrôlée, toute la population algérienne l'était également par les forces armées et les forces de la police, sans compter les milices pieds noirs. Et le but du recrutement de ces jeunes femmes était de duper les militaires et les policiers français qui contrôlaient étroitement la sortie de la Casbah et les quartiers européens pour pouvoir déposer, à ce stade de la guerre d'Algérie, des bombes dans la ville européenne. Et c'est pour cette raison qu'elles sont sélectionnées par Yassef Saadi, bien qu'elles soient toutes trois volontaires. Alors, dans un premier temps, l'intégration de ces trois jeunes femmes dans le réseau clandestin se passe bien, mais les problèmes surgissent dès les attentats de septembre 1956, attentats du Milk Bar et attentats de la cafétéria en particulier, et c'est Zamia Lakhdari qui va être au centre des critiques de Yassef Saadi, donc le chef du réseau Bombe dans la zone autonome d'Alger, pour une raison que je vous laisse découvrir à travers une citation tirée des mémoires de Saadi. Parce qu'il était de bon ton que les jeunes filles sérieuses se fassent accompagner, elle, Zamia Lakhdari, commit la faute de se faire chaperonner par sa mère, vêtue comme elle à l'européenne. C'était d'autant plus inconscient que cette négligence aurait pu nous coûter très cher à un moment où l'existence du réseau était tenue jalousement secrète. Et donc Saadi se réfère ici à l'attentat de la cafétéria où effectivement la mère de Zamia Lakhdari l'accompagne pour déposer sa bombe dans ce lieu public. C'est un cas, je crois, unique dans l'histoire de la violence politique. Mais j'en reviens aux mémoires de Saadi qui reprochait en fait à Zamia Lakhdari de ne pas avoir su suffisamment jouer l'émancipation par rapport à son statut de femme algérienne, donc de se faire chaperonner par sa mère, au risque de mettre en péril l'organisation clandestine. En quoi Saadi se trompait largement, puisque Zor Lakhdari, la mère de Zamia, n'était pas du tout, en l'occurrence, un chaperon, puisqu'elle avait joué, et là je cite les mémoires de Zora Drif, un rôle considérable, non seulement de notre prise de conscience et sa maturation, mais aussi de notre engagement et son raffermissement. En réalité, ce n'était pas Zamia qui était incapable de pleinement jouer le rôle d'une femme émancipée, comme le pensait Saadi, c'était sa mère qui s'était émancipée au point de jouer une partition politique qui était totalement différente de celle de son mari, puisque je vous rappelle que son mari était à l'époque cadi d'Alger, donc un collaborateur étroit de la puissance coloniale. Zamia Lakhdari ne va pas résister à la pression de la vie clandestine, et après les attentats de septembre 1956, elle quitte le réseau, sans d'ailleurs avoir de problèmes avec Saadi, contrairement à Zora Drif et Jamila Bourid, qui deviennent d'authentiques militantes clandestines durant la période qu'on nomme la bataille d'Alger. Et c'est durant cette période que leurs relations avec la direction de la zone autonome d'Alger vont encore se compliquer. Je n'entre pas dans les détails des événements, si ce n'est pour dire qu'il y a un désaccord entre les deux jeunes femmes et leur hiérarchie au sujet de la préparation d'un attentat. Et je vous laisse découvrir la suite à travers une citation des mémoires de Zora Driff. Brusquement, une voix sèche, inconnue de nous, nous secoua. « Cela suffit. Savez-vous que vous êtes en état de rébellion et passible du tribunal militaire ? L'opération est annulée. C'est un ordre. Il est définitif et personne ne peut revenir là-dessus », coupa si Mohamed. Samed Bouguera, le chef politique de la Wilaya 4. Interloqué, sincèrement désarçonné, au comble de la honte et du désespoir, Jamila et moi luttions de toutes nos forces pour ne pas éclater en sanglots et aggraver notre cas. Arrivés à notre refuge du 5 impasse de la Grenade, je n'invente rien, nous éclatâmes quand même en sanglots car les 2 semaines de préparation de notre opération avortée dont l'œuf nous avait conditionnés et nous nous sentions brusquement vidés de notre énergie. Asiba s'inquiéta de savoir si quelque chose de grave était arrivé. Nous la rassurâmes en lui expliquant que nous venions d'essuyer un revers du fait que nous étions des femmes. Quoi que nous fassions, ils nous regarderont toujours comme des êtres faibles à protéger. Peu importe ici que les motivations de Si Mohamed fussent bien celles que lui prête Zora Driff dans ses mémoires, l'anecdote est simplement là pour illustrer la nature contraignante d'une structure clandestine, fortement militarisée et hiérarchisée dans le cas de la zone autonome d'Alger, qui ne laisse en l'occurrence aucune place aux femmes dans ces instances et donc dans le processus décisionnel. Alors, dans le cas du réseau bombe de la zone autonome d'Alger, la structure clandestine était totalement militarisée et hiérarchisée, au point que Mohamed, Si Mohamed menaça Zora Driff de la traduire devant un tribunal militaire, mais est-ce qu'on peut concevoir d'autres modalités de l'action clandestine qui le soient moins militarisées et hiérarchisées ? Et est-ce que dans ce cas, le potentiel émancipateur de la lutte peut se renforcer ? Et pour répondre à cette question, je prends mon deuxième exemple, qui est celui de Irmgard Möller, membre de la Rotarmee Fraktion. Je ne suis pas le plus compétent de la salle pour parler de cette organisation, donc je me limite aux mémoires de Möller, et plus particulièrement à un passage de ses mémoires, qui donne d'ailleurs son titre à l'ouvrage d'entretien qu'elle a accordé à Oliver Tolmaim. « Rotarmee Fraktion, das war für uns Befreiung, la fraction armée rouge, c'était pour nous la libération. » Alors le « uns », le « nous », la citation, se réfère au collectif militant dans lequel il n'y a pas de différence de genre qui interviennent dans la perspective d'Irmgard Möller. La fraction armée rouge n'est pas plus émancipatrice pour les femmes que pour les hommes, parce que dans sa perspective, le processus émancipateur est fondamentalement collectif. Je vais y revenir dans un instant. Quant aux libérations de la citation, le Befreiung, on peut lui donner plusieurs significations différentes. Il y a une première signification qui n'est pas consciente, très vraisemblablement chez Irmgard Möller, mais on ne peut pas s'empêcher d'y songer. C'est la libération des détenus de la fraction armée rouge emprisonnés dans les centrales allemandes, puisque toutes, ou en tout cas une grande partie de l'histoire de la fraction armée rouge pour ces 2 premières générations, tourne autour de cette question de la libération des détenus du groupe. Je rappelle juste à cet égard la boutade d'Astrid Prohl, qui était proche du noyau fondateur du groupe, qui avait renommé l'organisation BBF, Befreit Bad Fraktion, fraction pour la libération de Bader, mais c'est évidemment pas cette signification qu'entend Möller. La deuxième signification qu'on peut donner à Befreiung renvoie à l'idée d'émancipation par la lutte armée, puisque le Befreiung, on le retrouve dans des locutions telles que Befreiungsarmee, armée de libération, et après on peut ajouter tous les adjectifs qu'on veut, et dont le sigle, dont le nom de la fraction armée rouge, on peut parfaitement considérer que le Befreiung, il est en fait sous-entendu. Fraction armée rouge, mais pour la libération, pour l'émancipation. Quant à la troisième signification, c'est celle qui se rapporte à l'idée d'émancipation dans la lutte armée que j'ai évoquée tout à l'heure, et c'est cette signification qu'Imgard Müller donne à la notion, comme on peut s'en assurer en recontextualisant la phrase qui a été extraite des entretiens pour donner le titre à l'ouvrage. Je donne rapidement le contexte. Tolmein interroge Müller sur l'existence d'une hiérarchie stricte au sein de la fraction armée rouge, qui serait dirigée par un duo tyrannique, Baader et Henslin, voire même qu'Ulrike et Meinhof serait prisonnière de ce duo, selon le mot qui avait été utilisé par l'ex-mari d'Ulrike Meinhof. Et Müller va répondre à cette question de la manière suivante. Si cela avait été ainsi, la fraction armée rouge se serait très rapidement effondrée sur elle-même, minée par ses contradictions internes. Avec une telle structure, personne ne peut découvrir quelque chose de neuf et se maintenir durablement de la clandestinité. La fraction armée rouge, pour nous, c'était la libération, dans un sens étendu du mot, et non pas une organisation contraignante dans laquelle nous serions aigris, parce que cela aurait précisément pu être le cas. C'est en rapport avec notre histoire. Nous venions principalement du mouvement anti-autoritaire et avions rompu avec le concept de devoir, Pflichtbegriff, je ne sais pas comment le traduire autrement, et une conception aliénante de la politique. Nous avions une grande envie d'une vie libre et savions qu'il ne peut pas y avoir de libération individuelle, mais seulement une libération collective. Cependant, il faut aussi un haut degré de discipline, d'engagement et de prudence pour opérer dans la clandestinité. Parce que nous avions volontairement engagé la lutte, il y avait assurément des restrictions qui étaient faciles à comprendre et à accepter. Par exemple, ne pas même avoir la possibilité de rendre visite à une amie. Inversement, la vie dans l'illégalité rendait aussi beaucoup de choses possibles. Nous avons pu nous connaître les uns et les autres de manière très intense et avons eu beaucoup de joie et de divertissement ensemble. Je saute un passage. Je te l'ai déjà dit que notre combat était volontaire. Quand il y avait de la pression, elle venait de l'extérieur. Cette citation, je retiendrai trois éléments. Premièrement, que les rapports internes à une organisation de lutte armée sont tributaires des trajectoires militantes qui ont précédé le passage dans l'illégalité. Il n'est pas indifférent ici qu'une bonne partie du noyau fondateur de la fraction armée rouge soit issue du mouvement anti-autoritaire. Et donc que la configuration interne des rapports de pouvoir procède à la fois des contraintes inhérentes à l'action clandestine et des contraintes librement consenties par les membres de l'organisation. Deuxièmement, je retiens de cette citation que mon hypothèse précédente est beaucoup trop axée sur les fonctionnalités internes et externes du groupe armé et ne tient pas suffisamment compte d'une variable que l'on pourrait nommer la socialité conspirative, dans laquelle se situent évidemment les rapports de genre au sein de l'organisation clandestine. Ces organisations clandestines sont souvent des fraternités combattantes que l'on ne peut pas vraiment comprendre si on néglige ce facteur de la joie et du divertissement évoqué par Müller, qui résonne évidemment de manière scandaleuse, voire pénible, à l'extérieur du groupe. Müller utilise d'ailleurs l'expression « Freude und Spaß ». J'ai traduit « Spaß » par « divertissement », mais le mot peut aussi signifier « amusement »,« bon temps passé ensemble », »,« rigolade » même, on pourrait dire. Bref, tout ce qui relève de l'impensé, voire du tabou, si l'on considère uniquement le versant mortifère de la lutte armée. Troisième leçon que je retiens de cette citation, et ce sera ma conclusion, le propos quasi nostalgique d'Irmgard Müller, après une vingtaine d'années passées en prison, c'est une des survivantes de Stammheim, ne peut pas être dissocié du coût individuel que présente l'engagement dans la lutte armée. potentiel d'émancipation de la lutte s'érode non seulement au contact de la vie clandestine, mais il est en permanence soumis au risque que présente la pression évoquée par Möller, et lorsque ce risque se réalise, il peut signifier la mort ou la détention prolongée pour les membres du groupe. Pour terminer, je dirais que la lutte armée est un phénomène, à mon sens, fondamentalement ambivalent, dans lequel l'émancipation ne peut pas se penser en dehors de la contrainte. Alors la contrainte, il y a tout d'abord celle que le groupe exerce sur son environnement. Je n'en ai pratiquement pas parlé, seulement fait quelques allusions, mais on ne saurait évidemment l'oublier. Il y a également la contrainte qui s'exerce à l'intérieur du groupe en fonction des modalités de l'action clandestine. Et enfin, il y a cette contrainte qui relève de la pression évoquée par Möller, pression constante que subit le groupe dans la clandestinité et qui implique que la logique émancipatrice, si elle est présente au sein du groupe, n'est jamais complètement éloignée d'une logique autosacrificielle pour les militantes qui s'engagent dans la voie de la lutte armée.